Voilà, bonjour. Donc, un moment pour la Terre, c'est tout de suite avec Amélie Bruchère de France Nature Environnement et Romane en service civique. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et vous nous allez nous parler de quoi déjà ?
Aujourd'hui, on va parler de la cohabitation entre les différentes activités de montagne et notamment suite au retour du loup. Donc, avant de commencer, on va juste faire un petit rappel de l'association. Donc, on est France Nature Environnement 04. Donc la Fédération départementale des associations de protection de l'environnement. Et aujourd'hui, je suis avec Romane qui, elle, fait partie de France Nature Environnement PACA, qui est donc la fédération régionale. Et on travaille ensemble sur un projet bien défini qui est le projet Alpatou et qui se déroule sur les Alpes françaises. C'est pour ça qu'on vient vous parler de ce travail en collaboration entre nos deux fédérations. Moi je suis salariée de l'association France Nature Environnement 04 et je vais laisser Romane se présenter.
Alors bonjour, moi c'est Romane Darzac, je suis à France Nature Environnement pour 8 mois, je fais donc un service civique et voilà, aujourd'hui j'essaie de contribuer donc à ce projet pendant 8 mois.
Oui, et donc le projet, quel est-il ? Ça s'appelle Alpatou, c'est un projet qu'on a développé ensemble. Et pour bien comprendre ce que c'est, je vais laisser Romane expliquer un petit peu l'historique du loup et pourquoi est-ce qu'on a décidé de travailler ensemble sur la cohabitation entre les activités de montagne et le loup.
Alors l'historique du loup, c'est que ça fait plusieurs siècles que le loup a été traqué en France jusqu'à sa disparition en 1930. Il a fait un retour naturel par les Alpes en 1992, c'est-à-dire que il a migré jusqu'à chez nous naturellement. C'est un animal qu'il faut savoir qu'il est protégé depuis la signature de la Convention de Berne en 1999. C'est un traité qui tend à la conservation de la ville sauvage, de la reconnaissance de cet animal comme un animal nécessaire au maintien des écosystèmes. Donc France Nature Environnement, elle essaye d'apporter une aide à cette protection comme l'État essaie de le faire également. Il y a des moyens qui sont mis en place, notamment les moyens de protection comme des enclos électrifiés ou alors un berger ou simplement des chiens de protection qu'on appelle communément des patous, qui sont des gardiens des troupeaux.
Effectivement, donc c'est des gardiens des troupeaux. Leur objectif, c'est d'aider les bergers à protéger le troupeau face au loup, qui est donc un carnivore et qui va s'attaquer à la proie la plus facile qu'il va trouver. On connaît tout ça, hein, on n'a pas envie de se fatiguer et du coup, on va chercher la nourriture au plus simple. Donc, s'il trouve un troupeau qui est de la nourriture pour lui, eh ben, il va aller au plus simple et s'attaquer au troupeau. C'est ce qui peut créer des difficultés pour les bergers parce que, comme l'a expliqué Romane, le loup, il avait été traqué et il avait disparu après des siècles de traque par l'homme. Et quand le loup est revenu naturellement par les Alpes, par l'Italie, les bergers n'avaient plus utilisé ces moyens de protection et les troupeaux avaient grandi. Ils étaient plus forcément adaptés à cette difficulté concernant leur métier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut proposer des moyens de protection des troupeaux qui soient adaptés. On a différents outils, comme l'a expliqué Romane. Que ce soit des clôtures, que ce soit des enclos, les chiens de protection. Mais par contre, ce qu'on connaît un petit peu avec les chiens de protection, c'est des incidents. Il peut y avoir des usagers de la montagne comme des randonneurs, des trailers, des vététistes qui se rendent près du troupeau pour leur activité de pleine nature, mais le patou, il va les prendre comme une menace et il peut alors courir vers eux, aboyer très fort, et ça peut être très impressionnant, ce qui peut aussi créer des incidents si les usagers n'ont pas les bons comportements, si ils font peur aux chiens et qu'ils le prennent donc vraiment pour une menace pour le troupeau. Il peut y avoir des pincements, il peut y avoir une morsure de la part du chien, et ça c'est une vraie problématique parce que l'objectif c'est que le troupeau il puisse être protégé du loup, mais en même temps il faut que toutes les activités en montagne elles puissent cohabiter. Odile, est-ce que vous avez déjà rencontré un patou si vous randonnez ?
Malheureusement, oui. Et j'ai eu la peur de ma vie. Donc, c'est vrai que depuis, il y a une crainte de prendre un sentier, parce que c'était un sentier de randonnée, hein, et le patou était loin. Mais J'avais beau faire demi-tour immédiatement, il m'a poursuivi pendant un bon moment, quoi. Et j'avoue que ça coupe l'envie de retourner randonner.
Est-ce que maintenant vous choisissez un petit peu vos randonnées en fonction de si vous savez qu'il y a des troupeaux
Un petit peu, ouais. C'est un lieu où je passerai plus, quoi.
Ouais.
C'est dommage.
Et ben justement, aujourd'hui, on va parler des gestes qu'il faut avoir quand on rencontre un patou. Ça pourra éviter des incidents, mais après, c'est vrai que ça peut toujours être impressionnant. Mais quand on est armé, quand on connaît comment est-ce que le chien il fonctionne, ça peut être plus simple à appréhender. Alors, justement, la position de France Nature Environnement sur cette situation, c'est qu'il faut en même temps préserver les conditions de travail et de vie des éleveurs et des bergers, parce que c'est évidemment nécessaire, mais la protection du loup doit aller de pair, parce que c'est une espèce qui est, comme d'autres espèces, très importante, et il y a un impératif d'intérêt général de conserver cette espèce, parce qu'elle contribue à la biodiversité, à l'équilibre de la biodiversité. On ne peut pas sacrifier l'un ou l'autre, donc il faut que les pouvoirs publics et les différentes parties prenantes, elles concilient sur un même territoire les intérêts économiques et les objectifs environnementaux. C'est comme concilier en fait le court terme et le long terme. On ne peut pas proclamer la cohabitation entre le loup, l'élevage, sans rien faire. C'est pour ça que, de notre côté, on essaye de mettre en place ce projet. Donc il y a plein d'autres solutions à côté. Il y a les associations et l'État qui mettent en place plusieurs choses pour apaiser le conflit. Romane, est-ce que tu veux nous parler des différentes initiatives qui se mettent en place à côté de Alpatou ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a mon expérience avec les chiens de protection qui a été une mise en place par l'État. Nous, aujourd'hui, pour Alpatou, on est financé par l'ADREAL, premièrement, puis l'initiative Homme Faune Sauvage, 1% pour la planète, une goutte d'eau également, Terre Doc et la ressourcerie des eaux de Provence. Tous ces soutiens nous permettent aujourd'hui de créer la troisième année de la formation Alpatou, qui est une formation qui a été créée du coup en 2021 et qui a pour objectif de former des bénévoles, à la sensibilisation en montagne sur justement cette question-là des moyens de protection des troupeaux et également du coup des gestes à adopter face aux chiens de protection.
Voilà, et donc ça, ce sont nos soutiens financiers qui sont très importants pour nous parce qu'on organise ce programme donc en partenariat avec l'ADREAL, qui est donc le représentant de l'État sur cette thématique. Mais on a aussi des financements privés, comme l'a expliqué Romane. L'initiative Homme Faune Sauvage, c'est une fondation, tout comme 1% pour la planète et une goutte d'eau pour la planète. Qui nous ont soutenus lorsqu'on a proposé ce projet dans le cadre des Rencontres pour la planète. Et on a aussi TerreDoc, qui nous soutient depuis de nombreuses années, et cette fois-ci sur la thématique du loup. Et la ressourcerie de Provence, qui est un partenariat qui a commencé cette année, parce que la ressourcerie souhaite continuer à vendre des fourrures qui sont données à l'association, mais ils avaient des difficultés à utiliser ces fonds pour le fonctionnement de l'association La Ressourcerie, et ils souhaitaient en faire un don pour des associations qui protègent l'environnement et les animaux. C'est pour ça qu'on leur a proposé ce partenariat pour la protection de la cohabitation en montagne et au final de la protection du loup. Et donc c'est grâce à tous ces partenaires qu'on peut mettre en place le projet et qui va avoir lieu cette année. Justement, la formation, elle va avoir lieu à la fin de cette semaine, donc vendredi 31 mars et samedi 1er avril. Ça va être deux jours de formation qui vont être très complets et assez intenses pour nos 30 bénévoles qu'on attend cette année. Romane, est-ce que tu veux en dire un petit peu plus sur cette formation, en quoi elle consiste et qui va intervenir ?
Alors oui, bien sûr, la formation, elle aura lieu à Châteauneuf-Val-Saint-Donat, donc dans le 04. C'est une formation donc, qui se déroule, comme Amélie l'a dit, sur deux jours. Le premier jour, ça va être plutôt une journée de prise de connaissances avec l'intervention de plusieurs intervenants. Notamment, on a la chance d'accueillir l'OFB, l'IDEL, également le CERPAM aussi, et la DTT 04. Donc tous ces intervenants, ils vont participer la première journée à apporter des connaissances. Également, on va avoir l'intervention d'un berger, donc il va nous parler de sa relation avec les chiens de protection et également son troupeau d'ovins. La deuxième journée, elle va être plutôt axée sur la mise en pratique. Donc on va avoir des jeux de rôle, des participations, des bénévoles pour essayer de se mettre en situation. On a la chance également d'avoir les bénévoles des années précédentes qui vont venir pouvoir nous partager leurs expériences. Et en fin de journée, on va aller dans un élevage et on va pouvoir rencontrer des patous et avoir justement cette expérience également d'un autre éleveur qui va pouvoir nous montrer sur le terrain comment est-ce que lui relationne avec ses chiens.
Voilà, et donc au terme de ces deux jours, les 30 bénévoles qu'on va attendre, ils vont être normalement aguerris pour ensuite pouvoir randonner pendant tout l'été. Et pendant leur randonnée d'été, ils vont aller à la rencontre des personnes dans la montagne et leur expliquer les gestes à adopter pour qu'ils puissent ensuite transmettre ça aussi et les appliquer et éviter qu'il y ait des incidents. Et donc je vais revenir un petit peu plus en détail sur le déroulé de ces deux jours. Comme l'a expliqué Romane, on va avoir une partie plutôt institutionnelle avec au début la présence de l'OFB qui va expliquer ce que c'est que la biologie du loup pour bien comprendre le loup, comment il fonctionne et quel est le rôle de l'OFB, qu'est-ce que le réseau loup-lynx pour apprendre à connaître et à comptabiliser le nombre de loups. Ensuite, on va avoir l'intervention de la DDT 04, qui est la Direction départementale des territoires, qui va expliquer qu'est-ce qui se passe en cas d'attaque sur les troupeaux, comment ça fonctionne, les indemnisations, quelles sont les protections possibles du troupeau, les différentes qui existent, quel est le protocole, quels sont les chiffres dans le 04, parce qu'on a potentiellement tous entendu des attaques, mais il faut vraiment qu'on revienne sur les chiffres et où est-ce qu'on en est dans notre département. Et voilà, les mesures de protection et comment ça fonctionne la prédation. Donc ça, c'est pour que nos bénévoles, ils comprennent bien l'état du territoire, où est-ce qu'on en est et quel est le rôle du loup sur le territoire. Ensuite, après notre repas, on va passer à la connaissance sur les chiens de protection. Et là, l'IDEL, comme l'a dit Romane, c'est l'Institut d'élevage des chiens de protection. Donc c'est eux qui coordonnent et qui s'occupent de, des élevages des chiens qui vont ensuite être mis à disposition des bergers. Et donc ils vont expliquer qu'est-ce que c'est que cette filière et comment fonctionne le chien pour vraiment pouvoir adapter son comportement au fonctionnement du chien. Et enfin, le CERPAM, qui est le représentant de l'élevage et du pastoralisme, va expliquer pourquoi le pastoralisme c'est important et quel est le rôle du chien dans la gestion pastorale. Donc ça, c'est le premier jour qui est très théorique. Il faut que nos bénévoles y comprennent comment ça fonctionne et pourquoi. Et le deuxième jour, ça va être de la mise en pratique avec les retours d'expérience des bénévoles des années précédentes, parce que comme on l'a dit, c'est la troisième année consécutive qu'on va mettre en place ce projet. Et on va faire des mises en situation pour que les bénévoles ils soient à l'aise pour rencontrer des personnes en montagne qui aient différents codes, différentes techniques pour les approcher, pour que ce soit vraiment bien pris et puis bien appréhendé. Et puis, on va organiser le bénévolat parce qu'ensuite, le rôle de Romane, ça va être d'être en lien avec tous ces bénévoles pendant l'été pour pouvoir les appeler et savoir s'ils ont effectivement sensibilisé des personnes, si les personnes qui ont été touchées ont déjà eu des incidents avec les chiens de protection ou pas. Et on va avoir vraiment un recueil de données qui va être très important. Donc, on va organiser ce bénévolat et comme l'a expliqué aussi Romane, on va visiter un élevage. L'objectif, ça va être que les bénévoles ils rencontrent pour la première fois un patou pour qu'ils voient à quoi ça ressemble, qu'ils comprennent la taille, son gabarit et puis qu'ils soient moins stressés peut-être pour la première fois. Ils vont le voir cette fois en pâturage et ça peut être plus impressionnant quand ils nous foncent dessus à toute allure. Et ils vont rencontrer aussi l'éleveur qui va expliquer son... son élevage et pourquoi il a choisi d'avoir des patous. Donc l'élevage qu'on va visiter, ça va être l'élevage cœur de chèvre à Limans, dans le 04, donc pas très très loin de là où on organise la formation qui est à Châteauneuf-Val-Saint-Donat. Voilà pour le déroulé de la formation. On va faire une petite pause musicale et juste après ça, on expliquera un petit peu le retour sur les années précédentes et puis évidemment, quels sont les gestes à adopter quand on rencontre un patou. Donc la première musique qu'on a choisie, c'est Romane qui a fait un choix qui est...
Siamé The Wolf, on va écouter ça. Reparti donc avec ce sujet de la formation Alpatou.
Oui, formation Alpatou qui a eu du succès cette année et justement on a fermé les inscriptions parce que là on est complet. Donc si ça vous intéresse, ça aura très probablement lieu aussi l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à rester en contact et à suivre sur nos réseaux tout ce qu'on fait sur la cohabitation avec le loup. Et sinon... c'est une formation qui est gratuite, donc qui est accessible à tous. Le seul engagement qu'on demande, c'est de réaliser au moins une randonnée de sensibilisation pendant l'été. Donc c'est pas uniquement une formation où on apprend des choses et où on y va pour ses connaissances personnelles. Vraiment, ce qui est important pour nous, c'est que quand on s'engage dans cette formation... on va ensuite rester en lien avec France Nature Environnement pour donner les informations qu'on aura recueillies sur le terrain quand on aura fait nos randonnées et faire des randonnées de sensibilisation. C'est très important pour nous pour avoir de la donnée et pour avoir des bénévoles actifs pour que ce projet puisse vivre. Et justement, c'est un projet qui a grossi d'année en année. On avait commencé en 2021. C'était la première expérience. C'était un moment très important où c'était le début de cet espace de dialogue. Parce qu'en fait, Alpatou, c'est non seulement une formation de bénévoles, mais c'est aussi un lieu où on retrouve différents acteurs. On l'a expliqué, l'OFB, la DDT, l'IDEL, le CERPAM, où il y a vraiment une importance à se coordonner et à échanger. On sait qu'on n'a pas tous les mêmes, forcément, visions du monde ou idées sur pourquoi et comment il faudrait mettre en œuvre la cohabitation, mais on est tous d'accord sur le fait que c'est un état de fait et il va falloir s'organiser pour la cohabitation en montagne entre toutes les activités. Et ça, c'est très important que ce moment d'échange puisse avoir lieu dans le cadre de la formation. Et donc, c'est ce qui avait été initié à la première année du projet. Sur la deuxième année du projet, on était vraiment monté en nombre de personnes sensibilisées. L'année dernière, il y avait 12 bénévoles qui étaient là à la formation. Il y en a 8 qui étaient des bénévoles actifs après sur l'année. On comprend un petit peu les 2-3 qui ont abandonné parce que l'année dernière, on se souvient, il y avait un sacré coup de chaleur et c'est vrai qu'on leur en voulait pas trop de ne pas avoir fait de randonnée. Mais il y en a quand même 8 qui n'ont pas lâché et qui ont fait des randonnées toute l'année. Parmi ces personnes, il y avait donc des bénévoles comme vous et moi qui font des randonnées occasionnellement. Mais il y avait aussi des professionnels de la montagne, donc des accompagnateurs en montagne. Et grâce à eux, puisqu'ils ont des groupes assez régulièrement, on a eu une démultiplication du nombre de personnes qui avaient été sensibilisées. La toute première année, c'était 400 personnes qui avaient réussi à être touchées, donc c'était déjà pas mal pour un début. Et la deuxième année, donc l'année dernière, c'était 2300 personnes qui ont été sensibilisées au cours de l'année. Et donc ça, c'était vraiment une démultiplication qui a été très importante pour nous, qui a fait grossir le projet, qui a aussi fait grossir l'intérêt pour la thématique, parce que plus de personnes ont entendu parler, et la plupart étaient des personnes en local qui randonnent régulièrement ici. Bon, il y avait quelques touristes, évidemment, mais la plupart, c'était des personnes de la région, et essentiellement des personnes qui n'avaient jamais entendu parler des gestes à adopter et qui avaient potentiellement déjà eu une rencontre ou avaient vu des écriteaux sur « attention, il y a des patous dans le coin ». Donc ça montre vraiment l'intérêt qu'il y a sur ce projet. Évidemment, il y a d'autres actions qui sont mises en œuvre. On est vraiment en lien avec, par exemple, les parcs naturels régionaux du territoire qui ont potentiellement aussi des médiateurs qui expliquent comment est-ce qu'il faut se comporter. Mais on est en lien avec eux et très complémentaires sur cette action. Et cette année, on a donc 30 inscrits et on espère que ça va encore démultiplier le nombre de personnes qui vont pouvoir être touchées pendant l'année. Sachant que cette année aussi, on aimerait bien essayer de répliquer cette action en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc créer aussi la même formation sur 2 jours, mais cette fois s'exporter en Auvergne-Rhône-Alpes, de manière à toucher toutes les Alpes françaises, donc vraiment étendre sur toutes les Alpes. C'est un petit peu compliqué parce que ça va être la première année en Auvergne-Rhône-Alpes. On va rencontrer les mêmes peut-être difficultés ou contraintes qu'on avait au tout début quand on avait essayé de lancer la formation ici, dans les Alpes de Haute-Provence. Normalement, elle devrait avoir lieu dans 1 mois. Pour l'instant, on n'a pas encore communiqué dessus parce que c'est pas encore fixe et défini. Mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur d'étendre cette sensibilisation sur toutes les Alpes pour que le projet y continue à prendre de l'ampleur et contribuer à la cohabitation avec toutes les activités. Et cette année, Romane, qui est arrivée en service civique, elle a aussi initié des nouveautés dans le programme Alpatou. Je vais lui laisser la parole pour expliquer ces nouveautés et à quoi ça va servir cette année.
Cette année, on propose un recueil de données. Donc, pendant la sensibilisation, les bénévoles pourront utiliser ce papier qu'ils auront sur eux pour recueillir des données sur la personne qu'ils ont en face d'eux. Ces données, nous, on va les utiliser pour un peu mieux comprendre la situation concrète aujourd'hui en montagne, mais également ça va être des données qu'on va pouvoir aussi proposer à d'autres personnes que ça pourrait intéresser, notamment l'Adréal par exemple, ou voilà. C'est aussi un moyen pour que nos bénévoles ils aient un peu plus de facilité à saisir l'enjeu, et comme ça ils pourront recueillir ce genre d'informations. Ce qui est sympa, c'est que cette grille de recueil des données, elle est à la fois sur papier et également sur Internet. Donc c'est comme ça qu'ils pourront un peu jongler entre les deux et choisir la plateforme qui leur correspond le mieux. Il y a également un dossier des participants qui sera distribué pendant la formation, dans lequel il y aura justement cette grille de recueil des données, mais également beaucoup d'autres documents. Voilà, on a entendu l'année dernière des personnes qui nous demandaient d'avoir un peu plus de documents. Et c'est quelque chose qu'on a décidé d'apporter cette année.
Voilà, et justement sur cette grille de recueil des données, ce n'est pas des données confidentielles ou des données personnelles. Les données dont on parle, c'est des questions de type est-ce que vous avez déjà rencontré des patous, comment ça s'est passé, est-ce que vous avez déjà mis en œuvre certains gestes, et puis aussi que recueillir le ressenti du bénévole pour savoir si l'échange avait été plutôt bien perçu, mal perçu, pour ensuite pouvoir adapter l'approche ou dans la formation pour pouvoir peut-être mieux former les bénévoles pour dire je me suis bien sentie à ce moment-là ou un petit peu mal, j'avais pas assez d'informations sur telle thématique. Et donc c'est un support que Roman a créé et qui va être très utile sur cette année. Et les documents papier, évidemment, on a nos ressources FNE où on a plein d'informations sur l'importance du loup, sur comment se comporter face aux chiens de protection, mais aussi on relaye tous les documents dont je parlais, des parcs naturels régionaux, de la DDT, qui vont pouvoir être utiles et qui vont potentiellement donner des supports pour les bénévoles lorsqu'ils vont rencontrer des personnes en montagne. Si jamais ils ne se sentent pas très à l'aise, ils peuvent toujours référer à ces documents ou demander aux personnes d'aller sur tel site internet qui va étayer un petit peu le propos. On va faire la dernière pause musicale et ensuite on vous expliquera justement le plus important, quels sont les gestes à adopter quand on rencontre un patou.
Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile, qui aimerait voler toute la Cassiopée. Pourtant tu dis du mal de moi, t'aimerais kicker comme moi. Tu vas finir par te casser le pied. Je serai la montagne, tu feras laisser go. On ne parle jamais quand on en sait trop. Je serai l'étoile, tu feras la déco. On a beau trop tourner, t'as que des mauvais échos. On sera l'éléphant, tu seras la souris. Tu seras le bon temps, tu seras les soucis. Tu donneras ton avis sur chacun de mes choix. Tu diras des autres ce que l'on pense de toi. On fera le soleil, tu feras l'ombre. Les masques tombent, tu mets en lumière tous tes côtés sombres. On te serre la main et on se rend compte qu'il nous manque un doigt chaque fois quand on les rencontre. On fera le soleil, tu feras l'ombre. Les masques tombent, tu mets en lumière tous tes côtés sombres. On te serre la main et on se rend compte qu'il nous manque un doigt chaque fois quand on les rencontre. Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile, qui aimerait voler toute la Cassiopée. Pourtant tu dis du mal de moi, t'aimerais kicker comme moi. Tu vas finir par te casser le pied. Je serai la montagne, tu feras les échos. On ne parle jamais quand on en sait trop. Je serai l'étoile, tu feras la déco. On a beau trop tourner, t'as que des mauvais échos. On sera l'éléphant, tu seras la souris. On sera le bon temps, tu seras les soucis. Tu donneras ton avis sur chacun de mes choix. Tu diras des autres ce que l'on pense de toi.
retour avec France Nature Environnement.
Et donc on est de retour pour vous expliquer quels sont les gestes à adopter lorsque vous rencontrez un troupeau. Je vais laisser Romane vous expliquer ça en détail, en ordre, que vous soyez un randonneur, que vous soyez à vélo ou que vous ayez un chien avec vous.
Alors on peut commencer par s'imaginer qu'on est à pied. Donc voilà, on se balade dans la montagne et on passe devant un troupeau. On ne voit pas de chien en particulier, hein, et c'est juste une sorte de grosse masse blanche. Donc déjà là, on s'alerte, on se dit ok, il y a un troupeau qui est pas loin. On va essayer de contourner au maximum ce troupeau. Donc on peut imaginer que justement dans ce troupeau-là, il y a un chien et qui commence à venir vers nous. Nous, on est donc à pied. On va imaginer qu'on a un sac à dos sur nous ou n'importe quel objet qu'on pourrait avoir emmené avec nous. C'est important justement de mettre un objet entre nous et le chien pour marquer cette distance-là. Une fois qu'on a fait ça, on peut parler avec le chien, essayer de pas sympathiser, mais disons que le mettre à l'aise, on va dire, lui montrer qu'on n'a pas peur, qu'on est à l'aise, que tout va bien en fait, et qu'on n'est pas en danger justement, parce que c'est ce qui vient vérifier finalement en venant vers vous. On va justement, pour ne pas paraître agressif, ne pas faire de mouvements brusques, ne pas regarder le chien dans les yeux, et simplement voilà, essayer de maintenir entre vous et lui une sorte de distance. En général, le mieux, c'est de ne pas bouger, mais c'est vrai que parfois, le chien peut s'approcher un petit peu trop. Dans ce cas-là, on peut reculer, mais le but, c'est voilà, de ne pas se remettre dos au chien ou ne pas se mettre à courir. Ce genre de choses, c'est ce qui, en général, est plutôt signe de... Enfin,
ça n'arrange pas l'affaire.
Voilà, exactement.
Il vaut mieux éviter, voilà.
Une fois que le chien est venu vers vous, il va commencer à vous renifler, voilà, vérifier que vous n'êtes justement pas en danger. Une fois qu'il a fini ça... Il va détourner les yeux et à partir de ce moment-là, il va commencer à s'éloigner. C'est là où vous pouvez vous dire, ok, c'est bon, il a compris que je n'étais pas en danger. Vous attendez qu'il s'éloigne un petit peu et vous aussi, vous pouvez commencer à vous éloigner. Ce qui est important, c'est quand même de garder le chien en visuel parce qu'on ne sait pas trop. C'est quand même bien de savoir ce qui se passe. Et donc, voilà, on s'éloigne en marchant toujours, hein, même si on était en train de courir avant. On attend de dépasser le troupeau avant de se remettre à courir. Si on courait. Sinon, si on est par exemple à vélo, c'est à peu près la même chose. Il faut voilà, essayer de voir un petit peu plus loin, on va dire, dans le sens où il ne faut pas se retrouver trop proche du troupeau avec, sur le vélo avant d'en descendre. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du sac à dos. Là, on va penser que le sac à dos serait plutôt le vélo. Donc, c'est le vélo qu'on met entre vous et le chien. Et on remonte sur le vélo une fois dépassement du troupeau. Également, si on a un chien. On se balade avec le chien. Le but, ça va être de ne pas le maintenir en laisse. Donc, on le laisse en liberté pour que la relation entre le chien de protection et le chien domestique puisse se faire naturellement sans interférence de votre part. Donc, justement, on n'interfère pas. On ne va pas mettre les mains. On ne va pas essayer de crier ou quoi que ce soit. On laisse la nature faire les choses. Et puis, de façon générale, on ne touche pas le troupeau, on ne touche pas le chien, on ne caresse pas, donc c'est pas un chien domestique, hein, c'est vraiment un chien de protection, c'est son rôle, sa famille, c'est le troupeau qui est derrière, donc il est là pour le défendre. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit.
Donc, si on récapitule, il faut rester calme, il faut éviter de... Si on peut, hein, on contourne au maximum le troupeau. Et comme l'a expliqué Romane, on met au possible quelque chose entre le chien et nous, que ce soit un vélo, un chapeau, un sac à dos. Ça va permettre aussi pour nous d'être un petit peu plus à l'aise, parce qu'il ne va pas forcément renifler notre corps directement, mais il y aura quelque chose entre nous. Et pour lui, ça va être une première approche. Et ensuite, normalement, il détourne le regard et il s'en va. Si on a des bâtons de marche aussi, on ne fait pas des gestes brusques avec, on n'essaye pas de l'empêcher de venir avec nos bâtons. L'objectif, c'est toujours de rester calme. Après, c'est ce qu'on conseille. Et il y a la réalité. Donc, on connaît on sait que ça peut être difficile et le ressenti de chacun est différent aussi en fonction de notre vécu et de la relation qu'on a peut-être déjà eue avec des chiens ou non.
Moi, mon attitude, c'était de partir, avant même qu'il arrive vers moi, de partir d'un pas assuré et avec les bâtons derrière mes jambes, en plantant bien les bâtons. Ça faisait un rythme.
D'accord.
Et j'avais le sentiment que même s'il approchait beaucoup, ça protégeait mes jambes d'une éventuelle morsure, quoi. C'est vrai que même s'il s'est approché de plus en plus près, il est resté à un mètre de moi. J'ai gardé ce même rythme sans parler...
D'accord,
voilà.
Si ça s'est
donc,
très bien passé.
Il m'a suivi un bon moment, mais après, il a fini par faire demi-tour. Voilà. Alors... Mais c'est vrai que ça me rassurait de mettre les bâtons, parler d'un objet entre nous et le chien. Voilà, c'était ça.
Ouais, déjà, il y a cette attitude de justement rester calme comme vous l'avez été. Ça, c'est important.
Voilà, parce qu'on sait très bien qu'ils sentent quand on a peur, mais c'est des fois, c'est difficile de maintenir le cap. Ouais.
Voilà. Et si on peut, c'est aussi bien de s'arrêter pour lui laisser le temps d'identifier. Et après, normalement, il repart et il va éviter de nous suivre sur le reste du temps. Et l'aspect sur le chien, c'est un petit peu contre-intuitif quand on a un chien domestique. Quand on est dans un parc naturel, en général, on conseille de le garder en laisse. Mais au moment où ils sont en train d'avoir des échanges entre eux, si on contraint et qu'on essaie de le tirer, de le ramener vers nous et qu'on ne veut pas du tout qu'il y ait d'échange, ça peut créer une difficulté dans le sens où le chien de protection ne va pas forcément identifier comme ça comme ce n'est pas une menace. Justement, si on essaie d'interférer, ça peut créer des difficultés.
Donc, ça aussi, ça doit être difficile. Hein, oui, s'il y a un petit chien...
C'est assez contre-intuitif,
On peut se dire, il va se faire dévorer.
Oui, surtout quand on voit la taille des chiens de protection, et quand ils courent vers nous. Mais bon, c'est ce qui est conseillé. Après, il y a aussi la réalité, et chacun qui fait aussi en fonction de son vécu, comme on l'a dit. Voilà, donc c'était sur les gestes à adopter et notre projet Alpatou. Donc comme je le rappelle, qui aura lieu le 31 mars et 1er avril à Châteauneuf-Val-Saint-Donat et qui va être complet cette année. Mais surtout, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester en lien avec nous.
On a donc c'est gratuit, c'est des formations gratuites.
C'est tout à fait gratuit, mais ça demande un engagement bénévole en échange.
Bien sûr.
Et si vous avez besoin de plus d'infos, on a tout sur notre site internet qui est www.fne04.fr. Et sinon, sur nos réseaux, on est sur Instagram et sur Facebook, donc FNE04. Justement, à propos de l'asso, je vais vous parler des prochains rendez-vous de l'association. On va avoir en avril une journée qui va être le 5 avril. Ça va être la journée Sol Vivant. Donc on va se retrouver de 10h à 12h30 à la butinerie. La butinerie, vous savez, c'est notre espace de préservation de la biodiversité qui se trouve au pont du Pâtre à Villeneuve. Et avec nos collègues justement de FNE PACA, dont fait partie Romane, et l'Association française de l'étude des sols et la Société du canal de Manosque, on va réfléchir à un aménagement de ce lieu autour des sols. Donc on aimerait bien faire une fosse pédagogique, c'est grosso modo creuser un trou pour comprendre et pouvoir étudier le sol. Et réfléchir à d'autres outils aussi pédagogiques qu'on pourrait mettre en place pour faire un petit peu mieux connaître le sol, la vie du sol, pourquoi c'est important au grand public. Donc ce projet il va être mené sur plusieurs années. Là, ça va être la première étape. On va concevoir un petit peu et étudier avec nos partenaires comment est-ce qu'on va pouvoir aménager la butinerie pour justement cette thématique sur le sol. Et on a aussi toutes nos informations à ce propos sur notre site internet. Et ça, c'est aussi une visite qui va être ouverte au grand public. Donc si jamais vous êtes intéressé par la thématique des sols, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Donc ça, c'est le matin, on va parler des sols. Et l'après-midi, on va faire un chantier participatif à la butinerie. Donc là, c'est toute personne qui veut apporter une force vive pour des aménagements. On va faire les plantations de printemps à la butinerie. N'hésitez pas aussi à nous contacter, on a toujours besoin de bras. On va notamment, pendant ce chantier, créer un système d'arrosage pour notre micro-forêt qu'on a planté juste à côté de la butinerie, qui va être très important parce qu'on utilise toutes les techniques possibles pour préserver l'eau et éviter qu'il y ait de l'évaporation. Donc on a mis évidemment de la paille au sol de la micro-forêt, mais la première année, c'est très important qu'ils aient les conditions favorables, ces plants, pour qu'ils puissent ensuite grandir correctement. Et on va aussi créer un petit portail d'accès à la micro-forêt parce que jusqu'à maintenant, on avait clôturé entièrement pour se protéger évidemment des sangliers parce qu'il ne fallait pas que la micro-forêt leur serve de festin. Donc ça va être le chantier participatif. Là aussi, c'est ouvert au public. Mais par contre, il faudrait s'inscrire pour qu'on sache combien de personnes on attend et si on prévoit des choses pour l'accueil. Et ça va être toute l'après-midi du 5 avril. Ensuite, on va avoir le 11 avril, on va se retrouver à Digne, ça va être pour un café numérique. Il va y avoir une projection de film à l'espace Lumen. Et notre intervention va être à la suite d'un film qui va être projeté par le Café Numérique sur le sujet de l'impact environnemental du numérique. D'un point de vue à la fois des déchets numériques, de la consommation nécessaire pour nos outils numériques. Et à la suite de ce film, on va organiser le débat. Là, c'est la ville de Tignes qui a fait appel à nous sur cette thématique. Donc, il y aura toutes les informations nécessaires sur le site de la ville. Et vous cherchez aussi Café Numérique Espace Lumen. Et il y aura toutes les informations, donc, le 11 avril. Et encore un petit peu plus tard, on a prévu en mai. Ça va être une fête qu'on avait déjà organisée l'année dernière. Elle va avoir lieu à Bradas, sur le marché aux fleurs. Ça va être de 9h à 13h, donc le 8 mai. Il y aura à cette occasion différentes sorties autour de l'As, de la rivière, de la faune et de la flore pour comprendre les invertébrés aquatiques. Il y aura une animation au bord de l'As et puis il y aura des petites vidéos pour comprendre cette rivière, son importance et puis les enjeux qu'on va rencontrer cette année, notamment sur la ressource en eau. Et donc vous pourrez nous y retrouver donc, de 9h à 13h au marché aux fleurs de Bradas le 8 mai. Donc voilà, c'était tout pour les actus de FNE04. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux et sur notre site internet. Et puis au mois prochain.
Merci, merci Amélie et merci Romane de cette belle émission encore. Bonne journée à tous, à bientôt.